passe la parole à Jean Bateau, qui, lui, qui autrefois avait étudié sous la conduite de Monsieur Paul Verhoeven, va peut-être nous expliquer si les visions qu'il a entendues sur le futur de la coopération dans les 20 prochaines années permettront à certains pays du Sud ou de l'Est de sortir de l'impasse.
Absolument.
Je viens en face de vous parce que je sais que de suivre toute une série d'interventions, c'est un peu difficile, et parfois de mieux voir l'intervenant, ça permet de rester éveillé. Bon. Alors, je vais réagir en donnant mon point de vue, je vais réagir surtout à l'introduction qu'a fait M. Lahinde. Je vais faire un certain nombre de critiques, on est là pour discuter, et faire des propositions. Alors, sur le plan des critiques, ce qui me frappe dans le discours actuel sur le développement, c'est une certaine résignation et un certain aveu d'impuissance. En fait, on commence tous par faire des constats alarmants. Le nombre de pauvres qui vivent avec moins d'un dollar par jour, etc., etc. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. On ajoute que la situation va s'aggraver, parce qu'il y a la crise, la dépression qui menace au niveau international, parce que le climat est menacé, parce que des foyers de tension et de guerre vont se développer. Ça va être pire, c'est terrible, ça va être pire. Ensuite, c'est très frappant la remarque de M. Dahinden de dire qu'il y a plus de pauvres en Inde aujourd'hui qu'en Afrique. L'Inde, pays émergent. Donc même les pays émergents ont énormément de pauvres. Ensuite, dans les années 60 ou dans les années 70, quand moi j'ai ouvert les yeux sur les problèmes du développement, on parlait de rattrapage. On parlait certes d'impasse, comme Paul Verhoeven, mais on parlait de rattrapage, on parlait de décennies du développement. On espérait faire quelque chose pour transformer la donne. Aujourd'hui, je sens un pronostic pessimiste marqué par une certaine résignation. La pauvreté, les inégalités, les graves déséquilibres ne changeront pas. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on propose au niveau de la coopération helvétique? Tout d'abord, pas d'augmentation significative de l'aide publique au développement, de l'ordre de 2 milliards de francs aujourd'hui, 0,4% du revenu national brut, mais chaque année, on prend en charge, dans le calcul de l'aide au développement, des choses qu'on ne considérait pas dans la statistique au préalable. Maintenant, une année de la prise en charge des requérants d'asile, la première année est prise en compte dans le calcul de l'aide publique au développement, disant qu'avec des artefacts comme ça, on pourra augmenter marginalement l'aide, mais très clairement, et Mme Losley l'a dit, il y a un refus d'aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui et c'est évidemment tout à fait insuffisant. Ensuite, puisqu'on ne va pas avoir plus, il faudra faire mieux avec ce qu'on a. Alors on parle de l'esprit pionnier, de la capacité d'innovation, des nouvelles générations qui ne seront plus concernées tant par les problèmes économiques, sociaux et politiques, la génération de 68 sur laquelle il faut tourner la page, mais de générations qui s'intéresseront, on ne sait pas très bien à quoi, mais à des projets d'avenir désidéologisés. Je les attends, ces projets d'avenir désidéologisés, mais je crois que le Sud est en train de perdre patience. Deuxièmement, je trouve qu'on abandonne toute perspective critique. Il faut avoir une perspective critique et exprimer nos désaccords. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais j'ai l'impression qu'on manque souverainement d'idées critiques. Il faut tourner le bouton de sa radio et écouter M. Pascal Lamy, directeur général de l'ONC, qui vient recevoir demain son doctorat honoris causa à l'Université de Genève, pour dire que le capitalisme a failli. Et qu'il faut peut-être trouver un autre système, mais que pour le moment, on n'en a pas trouvé un meilleur. Et au moins, il est à l'écoute de ce qui se dit aujourd'hui dans le monde. Donc, peut-être, moi je crois, qu'on va revenir à une réflexion plus sérieuse, plus critique sur les enjeux du développement et sur les changements qu'il nous impose. Alors, tout d'abord, cet abandon de la perspective critique, disons dans le discours ronronnant actuel, c'est réaffirmer que fondamentalement, il va falloir faire reculer l'étatisme, le protectionnisme, le mercantilisme, les principes d'économie dirigée, les petites structures d'économie planifiées, les approches bureaucratiques qui sont vouées aux hégémonies depuis les années 80, qu'il va falloir mettre en cause une aide qui va aux États pour des programmes sociaux, mais au contraire aider les populations, ce qui signifie en général aider le secteur privé. Pas de réflexion sur les profits des sociétés transnationales du nord au sud, sur les transferts, les rapatriements de profits, sur l'échange inégal, sur le problème scandaleux de la dette du tiers-monde et du service de la dette qui ponctionne les revenus des pays du sud. Troisième élément, je sens très fortement et de plus en plus fortement que la coopération se préoccupe tout autant des intérêts de notre économie que des intérêts du développement. Et que la DDC, qui avait une certaine indépendance par rapport au SECO, me semble de plus en plus subordonnée aux objectifs économiques du SECO, du secrétariat de l'économie. On parle d'une mondialisation propice au développement. Et quand on écoute attentivement ce que ça signifie maintenir nos positions dans les pays en développement face à la concurrence des pays émergents. Ça signifie mettre en cohérence la politique extérieure de la Suisse au service de son économie et pas de sa politique de développement. J'en veux pour preuve le vote récent d'un accord bilatéral avec la Colombie qui a été adopté par le Conseil national, en tout cas en premier vote, et qui sera adopté comme une lettre à la poste, et qui ne fait aucune critique à la politique des droits de l'homme du gouvernement colombien. Et ensuite, une politique subordonnée à nos intérêts économiques, mais une politique qui se préoccupe de la sécurité, comme on se préoccupe de la sécurité dans les pays du Nord, quand on parle de suppression de budgets sociaux et de montée de la criminalité. On se préoccupe de la sécurité comme d'une assurance contre des risques d'explosion sociale. Alors je prends dans le discours de M. Dindon, nous n'agirons pas seulement par souci éthique, mais aussi dans l'intérêt bien pensé d'éviter les risques et les conséquences de ces phénomènes, c'est-à-dire la pauvreté et l'exclusion sociale. Ou alors la pauvreté, la destruction de l'environnement, les violations des droits de la personne humaine et la violence armée sont autant de menaces pour notre société. D'où la recherche d'un ordre mondial inclusif, etc. On est très préoccupé par les foyers d'explosion que pourrait provoquer la croissance de la misère et la croissance des inégalités. D'où quelles alternatives, et évidemment, je me contenterai d'ouvrir quelques pistes. Tout d'abord, je pense que nous devons prendre au sérieux les traités internationaux et nous départir de cette attitude qui consiste à dire « ces traités sont là pour faire joli, la réalité est tout autre ». Alors je vous rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 25, proclame le droit pour chaque être humain à un niveau de vie suffisant. Ensuite, qu'il y a un pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui a été adopté en 1976 avec des mécanismes de contrôle en 2008 qui complètent les dispositions concernant les droits humains, qu'il y a une déclaration sur le droit au développement en 1986 et que nous avons adopté des objectifs du millénaire à l'horizon 2004 qui vise à réduire, vous les connaissez, de moitié, pour faire simple, la pauvreté à l'horizon 2015 dans le monde. Ces objectifs sont une obligation. Or, tout le monde sait qu'ils ne seront pas réalisés. Que faire ? Donc, il faut changer radicalement de politique. changer radicalement de politique, ça signifie se donner les moyens d'aller dans une autre direction. J'en citerai quelques-uns de ces moyens. Le premier, c'est l'annulation de la dette du tiers monde. J'entends, c'est quand même extraordinaire qu'une dette de 3350 milliards de dollars aujourd'hui, dont 1350 sont une dette des États, ne puisse pas être répudiée, alors que le service de la dette est aujourd'hui une ponction insupportable pour une grande partie des pays en développement. Même la CNUSED pour l'Afrique a demandé la suppression de la dette et affirmé que ça ne serait même pas suffisant pour aller dans le sens de réaliser les objectifs du millénaire. Alors cette dette, soyons sérieux, c'est 1/8 du budget militaire des États-Unis, c'est une ponction homéopathique sur la fortune des millionnaires du monde, et c'est, à l'inverse, pour les pays du tiers-monde, une menace constante pour la vie, pour la santé d'immenses secteurs de la population. Premier point, suppression de la dette. Deuxième point, considérer l'aide publique au développement non pas comme de la charité, mais comme un fonds de réparation pour une série d'éléments historiques, et là c'est plutôt l'historien économiste qui parle, c'est-à-dire la dette liée à l'esclavage, la dette liée au colonialisme, la dette liée au néocolonialisme, aux dégâts du néolibéralisme. C'est une immense accumulation de dettes, y compris la dette écologique cumulée de ces politiques qui nous appartient aujourd'hui de réparer. Donc il y a un fonds de réparation beaucoup plus conséquent que l'aide actuelle au tiers-monde qu'il faut revendiquer. Et bien sûr, pour financer cette aide, il faut recourir aussi à des mécanismes internationaux. Je ne vous fais pas l'injure de penser que vous n'avez pas entendu parler de la taxe Tobin. Il est possible aussi de décider de taxer les bénéfices des sociétés transnationales, de taxer de manière extrêmement légère les énormes fortunes qui se sont accumulées dans les dernières décennies pour financer un fonds de réparation qui serait à la hauteur de l'aide nécessaire publique aujourd'hui au développement. Ensuite, de soutenir les initiatives des sociétés civiles et des États du tiers-monde qui peuvent aller dans différentes directions, récupérer les fortunes indûment acquises par les potentats des pays du Sud et qui sont déposées dans les banques du Nord. Selon certaines estimations, c'est 2400 milliards de dollars qui sont déposés dans les banques du Nord, et disons qu'en Suisse, on a une certaine connaissance de ces mécanismes. Ensuite, c'est soutenir les initiatives qui vont, et là je suis en opposition avec M. Dahinden une nouvelle fois, vers le retour au secteur public des secteurs stratégiques de l'économie des pays du Sud. Toute l'histoire a montré que le libre marché favorise toujours le plus fort et défavorise toujours le plus faible. Il faut une politique publique de développement avec des secteurs publics pour les secteurs stratégiques de l'économie des pays les plus pauvres, sans quoi aucune politique de développement sérieuse n'est concevable. Ensuite, la mise en place de politiques financières et commerciales partiellement auto-centrées, c'est-à-dire subordonnées aux intérêts des pays les moins développés, j'arrive à la fin. Je prends comme une très bonne nouvelle l'annonce du développement d'une banque du Sud. Il faut que les milliards de dollars de réserves de change, environ l'année dernière 4500 milliards de dollars de réserves de change dont disposent les pays du Sud, puissent être mis à la disposition collectivement d'une politique de développement, donc Banque du Sud, pourquoi pas un fonds monétaire du Sud qui permettrait de solidariser une politique de développement des pays en développement. Bon, donc, pour conclure, vous avez bien saisi que tous ces objectifs, s'ils ne veulent pas être que des intentions sur le papier, supposent une modification radicale de notre développement économique à l'échelle internationale, donc un tournant radical dans les pays du Nord. Je pense que la croissance continue de l'économie actuellement mesurée par le PIB, et que chaque année, si on n'a pas un taux de croissance du PIB, eh bien, c'est l'impasse pour les pauvres, c'est l'impasse pour les pays du Sud, c'est une fausse perspective. Elle conduit, on le voit aujourd'hui, à une inflation monumentale de la dette, à des crises économiques financières à répétition, et dans tous les cas, à une crise environnementale sans issue. Donc je crois qu'il faut rompre avec cette vision-là du développement, à l'échelle globale, et aller vers une économie qui vise avant tout la production d'utilité en fonction des besoins réels des populations décidées démocratiquement en tenant compte des contraintes environnementales. Cela signifie, à mon avis, je vais employer un gros mot, ça sera le dernier, sortir du capitalisme.